On s'est retrouvé avec un très gros groupe qui pèse 30 milliards d'euros chinois qui est venu nous voir l'aréole dans notre petit bled à côté de Langon pour voir comment ils pouvaient nous racheter ou comment ils pouvaient utiliser notre techno parce que c'est le premier fournisseur mondial du Rokinaz et qu'en gros, ils se sont dit « oulala, eux, ils vont nous faire mal ».
Bienvenue dans le podcast « Activer l'économie circulaire ».
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis avec Michael. Bonjour Michael.
Bonjour Brieux.
Je suis enchanté de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va échanger sur ton parcours, sur ton entreprise que tu as fondée l'année dernière. Organics, et puis surtout, tu vas probablement nous apprendre beaucoup plus sur le domaine dans lequel tu évolues, mais j'en donne pas trop pour le moment, je préfère qu'on y vienne au fur et à mesure. Alors déjà, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous présenter ton parcours ?
Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Michael Reuss, j'ai 31 ans. J'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire je me suis arrêté au bac médico-social. Je voulais faire éducateur spécialisé. Sauf que pour des raisons notamment financières, je me suis plutôt orienté vers le commerce en sortie de bac. Donc j'ai commencé par en gros devenir vendeur sur des systèmes à énergie renouvelable pour du chauffage. J'ai fait ça quelques années, ça s'est bien passé. En sortie, j'ai monté une première société sur la même activité. Et après une grosse prise de conscience sur la vie en général, j'ai décidé d'arrêter de travailler totalement. Je me suis dit, je me reconnaissais plus dans le monde dans lequel j'évoluais. Je trouvais que c'était totalement aberrant à trop de niveaux, donc je me suis dit stop, je participe plus à tout ça et je reste chez moi. Voilà.
Mais alors attends, pour qu'on puisse un peu situer dans le temps, donc mettons t'as ton bac vers tes 18 ans je suppose, et puis cette première expérience pro, puis cette première entreprise, ça nous amène à combien de temps après ?
C'est simple, 4 ans après. En fait, j'ai fait 2 ans en tant que salarié, où je suis passé tout de suite, au bout d'un an, je suis passé manager, j'étais responsable d'une équipe de commerciaux. Après, j'ai monté une première boîte, sur 2 ans. Et à ce moment-là, en fait, on a déménagé quelques mois à Londres avec ma compagne pour voir un peu autre chose. C'était encore pire. Chez nous, c'était exactement ce qu'on ne voulait pas pour notre vie. Donc on est revenu et puis là j'ai décidé vraiment, comme je disais, de me déconnecter, d'arrêter de me lever le matin pour des choses que je ne comprenais même plus. Okay. Et donc évidemment quand on se déconnecte et qu'on n'a plus d'argent qui rentre, faut quand même se nourrir. Par exemple, c'est déjà un bon début. Et donc du coup je me suis mis à produire ma propre nourriture. Et évidemment, vu que j'avais pas d'argent pour acheter des engrais ou pour m'équiper même, je me suis mis à utiliser ce qu'il y avait autour de chez moi. Et donc j'ai commencé comme ça à faire ce que tout le monde connaît, des purins de plantes notamment, purins d'ortie, de consoude, de prêle, des décoctions, etc., qui me permettaient de fertiliser avec des choses que je trouve autour de chez moi qui étaient gratuites. Donc ça marchait très bien, j'avais des super rendements, je mangeais bien mieux que quand je travaillais d'ailleurs.
Paradoxalement, on pourrait dire, mais
ouais, exactement,
c'est normal.
Tout à fait. Et évidemment, ça suffit quand même pas à vivre. Et vu que se nourrir, c'est déjà bien, mais ça permet pas d'acheter du PQ, par exemple.
On a vu pendant le confinement que c'était ô combien précieux.
Exactement. Et je me suis mis à vendre mes surplus de production de mes fertilisants que je produisais. J'ai mis ça dans des bouteilles en plastique. Evian, pour pas les citer. Et aller vendre ça sur des marchés locaux. Et en fait, il y a eu tout de suite de la demande des gens qui étaient très contents de trouver ça, des agriculteurs qui me disaient, attends, moi j'ai des problèmes de pucerons, est-ce que tu peux pas me faire un truc? Moi, il me faudrait 200 litres de purin d'ortie. Enfin, en gros, un truc qui s'est fait un peu tout seul. Du coup, j'ai commencé à multiplier les marchés, ça fonctionnait bien, j'adorais ça, je voyais plein de gens. Du coup, j'ai monté une première auto-entreprise. Donc ça s'appelait Au Bon Purin, donc c'est quand même un truc assez rigolo pour démarrer. Ouais. J'ai fait évoluer ça a bien fonctionné. En développant cette activité, j'ai cherché aussi à améliorer les process de production de ces produits-là, donc avoir des produits mieux stabilisés, qui sentent moins, qui se conservent plus longtemps. Et en ayant fait ça et avec l'augmentation du volume de commandes, j'ai monté une société qui s'appelait Mister Organics, que j'ai développée pendant 3 ans.
Et là, Mister Organics, on est vers 2015 à peu près.
C'est simple. J'ai vendu la société, que je dise pas de bêtises, tout début 2019. Donc ouais, effectivement, c'était 2017. 2017, on va dire la période de création, départ en 2018.
Okay.
Et voilà. Et du coup, cette société-là a bien fonctionné. Donc, c'était toujours sur des extraits végétaux. Enfin, essentiellement, il y avait aussi des déjections d'insectes dedans, qui sont un très bon fertilisant et qui étaient très peu répandus à cette époque-là. C'est un petit peu plus avec les gros du secteur qui s'y mettent.
Là, par rapport à tes petits, entre guillemets, purins de consoude ou d'ortie, on sent qu'il y a une sacrée montée en compétences parce que pour aller récupérer des déjections d'insectes, il y a un autre niveau, j'imagine.
Ouais, il y a eu. C'est devenu vraiment une passion, hein, parce que quand on. Enfin, bon, après, il faut aimer, évidemment. Hein, mais moi, je me suis passionné pour ça, parce que au début, je me suis lancé là-dedans en me disant, quand même, enfin, c'est fou de devoir utiliser des produits super compliqués qui viennent de l'autre bout du monde, etc., alors qu'il y a des choses qui fonctionnent. Mais je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de limites. C'est pas si simple, hein. Je veux dire, sur l'agriculture plus traditionnelle, il y a vraiment des problématiques. Très compliqué, donc ça va pas partout, etc. Mais en gros, je me suis entouré de plein de gens qui étaient aussi passionnés par la microbiologie, par l'agronomie. J'ai fait énormément de recherches bibliographiques. Enfin, quand c'est une passion, on vit ça du matin quand on se lève jusqu'au soir où on se couche et même la nuit on en rêve. Donc effectivement, je suis assez assez vite monté en compétences, mais petit à petit, j'ai fait énormément d'erreurs, mais un truc de fou. J'ai raconté des conneries sans le savoir, parce que j'étais persuadé que ce que j'avais lu quelque part c'était vrai, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, j'ai tâtonné, j'ai fait ça de façon très empirique, mais ça a bien marché. Et vu que c'était toujours, on va dire, avec un haut niveau d'éthique et une volonté d'être sur l'impact, j'ai jamais fait ça pour faire du pognon, quoi. Le pognon, c'était la cerise sur le gâteau qui me permettait de vivre de cette activité. Mais moi, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir une solution et de me lever le matin pour un truc qui a un peu de sens, quoi.
Bien sûr.
Donc ça s'est vraiment fait assez tout seul. Et du coup, pendant que je développais cette activité, j'ai un ami qui est loueur de toilettes sèches qui est venu me voir et qui m'expliquait que lui, il payait. De mémoire, il me disait c'était 50 euros par mètre cube d'urine qu'il devait jeter en centrale de compostage après des festivals. Donc, il avait des coûts d'élimination.
Ouais, qui faisait payer à ses loueurs en plus. Enfin, bref.
Ouais, tout à fait. Enfin,
c'est locataire plus exactement.
Ouais, c'est du traitement de déchets. Hein. Donc, il y a toujours un coût entre le transport et la personne qui prend le déchet pour le retraiter.
Bien sûr.
Il me disait, c'est quand même bête de devoir payer. Et puis, surtout, il y a quand même des choses intéressantes dans l'urine. On sait que c'est un bon engrais potentiellement. Est-ce que tu n'aurais pas une idée pour en faire quelque chose? C'est arrivé comme ça. Donc, évidemment, le sujet urine, je ne m'y étais absolument jamais intéressé. C'est pas un truc. On peut se dire un jour, je vais travailler dans l'urine. Enfin, je sais pas.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le dire aujourd'hui. Oui.
Non, clairement. Mais du coup, voilà, ça m'a. Du coup, il m'a expliqué ça. Je me suis dit, j'ai regardé. Et puis, du coup, j'ai regardé toutes les problématiques associées à la gestion des urines et même de l'eau de façon générale. J'ai fait le lien avec les problèmes que je voyais au niveau de l'agriculture, etc. Et je me suis dit, mais quand même, c'est totalement dingue que d'un côté, on urine dans l'eau potable, on envoie sans traitement, il y a une petite partie qui est traitée, ça pollue tout le cycle de l'eau, ça a des impacts écologiques et économiques majeurs. Mmh. Et d'un autre côté, on importe des fertilisants de partout dans le monde, on utilise très mal ce qu'on a, il y a des taux d'efficience qui sont très bas. si, bah là, il y a quand même un truc à faire. Mais je me suis aperçu que la limite, en fait, elle était surtout au niveau économique. C'est-à-dire que dans un monde...
Alors attends, je me permets de te couper, Mickaël, parce qu'on va y revenir, mais j'aimerais juste qu'on approfondisse un petit peu plus tout ce potentiel de l'urine, parce qu'en plus, ça fait le lien avec un épisode récent avec Arthur et Guillaume Pont des Greniers de l'Abondance, qui, dans leur rapport sur la nécessaire résilience des systèmes alimentaires, consacrent un de leurs chantiers au recyclage massif de nos nutriments et donc de l'urine. Mais tu as commencé à l'effleurer, j'aimerais vraiment qu'on aille en profondeur avant qu'on aille voir tout le reste sur potentiel économique et tout. Est-ce que tu peux nous dire un peu le potentiel de l'urine dans l'agriculture ?
Oui, bah alors déjà, avant de moins en parler, je pense qu'il y a certains auditeurs ont envie vraiment d'approfondir, il y a énormément de bibliographies, mais il y a une thèse qui est vraiment super, qui est extrêmement complète, c'est celle de Fabien Esculier, de l'École des Ponts, qui a fait un boulot absolument exceptionnel que j'ai lu très récemment, alors que j'avais rencontré Fabien il y a déjà un peu plus de temps et j'entends parler de sa thèse depuis longtemps, mais j'ai même pas encore totalement fini de la lire pour vous dire parce qu'elle est très complète.
T'aurais un lien éventuellement à nous passer?
Ouais, bien sûr, je pourrais vous donner le lien, mais de toute façon c'est trouvable partout sur internet. Vous tapez Fabien Esculier urine, vous allez tomber dessus. Elle est sur en archives ouvertes. Il y a pas de, enfin voilà, c'est tout le monde peut le consulter, mais je pourrais donner le lien effectivement. Mais en gros, lui, il a fait vraiment le boulot, c'est-à-dire, c'est le thème, c'est le système alimentation-excrétion. Et en gros, bon, mais c'est pas compliqué à comprendre dans le fond, hein. C'est-à-dire qu'on consomme tous de la nourriture, on rejette les déchets, enfin, notre corps rejette des déchets qui sont, pile poil la nourriture pour les micro-organismes, le sol et les plantes. Donc, dans un monde idéal, ces matières-là sont retournées au sol, parce qu'elles permettent de fermer les cycles biologiques, en fait, tout simplement. Donc, en gros, le potentiel de l'urine, alors il n'y a pas que l'urine, hein, parce que les matières fécales, c'est aussi un gros sujet. Nous, on s'en occupe pas chez Toupi, parce qu'on s'est spécialisé sur l'urine, mais j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont se pencher sur les matières fécales, parce que c'est une source qui est aussi exceptionnelle, notamment au niveau carbone, dont les sols manquent énormément. Mais sur le sujet urine, en gros, ça concentre une bonne partie des nutriments qui sont rejetés par le corps humain. Et en fait, c'est des nutriments qui sont des engrais, tout simplement. Donc en fait, on a deux choix. C'est soit on continue, en gros, à rejeter tout ça, le considérer comme un déchet, et donc à, on va dire, devoir le traiter comme un déchet et avoir des pollutions associées qui sont assez lourdes. Ou alors, on se met à aller recycler, notamment en agriculture. Voilà. En gros, la problématique, elle est pas plus compliquée que ça, à mon sens. C'est vraiment une question de logique, en fait. C'est de la logique pure.
Historiquement, en plus, le traitement de l'urine, était très lié aux activités agricoles, quoi, parce que même la création des égouts en France vers la fin du 19e siècle, ça permettait justement d'améliorer cette récupération et puis de permettre de récupérer les nutriments pour les remettre dans les champs, quoi. Je voyais même en préparant l'entretien, à Paris, en 1920, plus de 50% de l'azote qui est contenu dans les urines était remis dans les champs agricoles, quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Enfin, vas-y, reprends.
Et il y a aussi les on va dire les lisiers animaux, donc fesses et urine issues des animaux. Ouais. Mais en gros, si on en est venu à ce système très linéaire qui fait qu'on n'utilise plus ces matières, c'est simplement qu'il y a une abondance énergétique qui ne va pas durer de toute façon. En gros, on a tellement accès facilement à l'énergie, au gaz, au pétrole, etc., que c'est devenu beaucoup plus simple et plus rentable d'utiliser des engrais minéraux. Point barre. Mais sinon, évidemment, enfin, l'humanité s'est construite sur, entre autres, sur le recyclage de ses propres nutriments. C'est-à-dire, à la campagne, n'importe quelle, même une personne âgée aujourd'hui, elle a connu les fosses qui étaient répandues sur le jardin sans aucun souci. Il n'y a jamais eu de question d'hygiénisation ou de je ne sais quoi. Et ça, après, il y a certaines limites, mais ça fonctionne. Enfin, voilà, c'est uniquement parce qu'on a accès à plein d'énergie de façon quasi illimitée, même si ça a tendance à être de moins en moins vrai.
Oui, ça se vérifiera de moins en moins.
Oui, mais je crois qu'on est déjà on va dire, on subit de façon forcée une baisse de l'approvisionnement énergétique en Europe. Hein. Je crois que là, c'est...
Ouais, et puis, il y a le Shift Project, effectivement, qui vient de faire un rapport sur le sujet qui est assez précis, que je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Mais en plus, il y a cette baisse de l'approvisionnement énergétique, mais aussi toutes les quelques sources de phosphore, enfin, les sources extractives de phosphore, bah, commencent aussi peut-être un peu à se tarir, non? Et pourtant, quand justement chacun va uriner, bah, il rejette du phosphore. C'est ça qui est paradoxal aussi.
Tout à fait. Alors après, sur le phosphore, je crois que là, il faudrait un vrai spécialiste sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a plein de sources qui se tarissent. Bon là, les sources principales pour l'Europe, c'est Russie et Maroc, hein, en gros, un peu chinois aussi. Mais effectivement, c'est une ressource qui est finie, c'est de l'extraction minière. Mais après, il y a quand même aussi un problème de, on va dire, d'utilisation du phosphore. Parce que, par exemple, en France, on a des stocks de roches qui contiennent du phosphore. De mémoire, c'est du gypse, mais je dis ça avec beaucoup de précaution parce que je suis pas expert. Mais en gros, de mémoire, on a quelque chose comme une réserve de 350 millions de tonnes de gypse en France. Et c'est juste que ce phosphore-là, pour l'instant, on sait pas l'utiliser en agriculture. Ouais. Mais avec des technologies... notamment lié au, enfin, avec la biotechnologie de façon générale, par exemple avec des bactéries qui savent rendre disponible ce phosphore, on peut tout à fait imaginer qu'on puisse l'utiliser. Donc je suis pas un extrémiste du oh là là, on va plus en avoir. Enfin moi c'est pas dans le sens où je me bats pas contre oh il y a plus de phosphore, il faut trouver une source locale. C'est juste que ça me paraît aberrant de continuer à taper dans les mines sur des gisements qui sont d'extrêmement bonne qualité souvent, qu'on pourrait utiliser de façon beaucoup plus précautionneuse et beaucoup plus fine, ben comme pour le sujet pétrole. Hein. Pour moi, le pétrole, c'est une superbe énergie. Il faudrait qu'on l'utilise de façon raisonnée et intelligente. Et effectivement, on pourrait remplacer une très grande partie de, on va dire, de ces nutriments extraits de mines par des nutriments recyclés, et notamment via l'urine, les matières fécales, les biodéchets, enfin le par tout ce qui est rejeté en gros par l'humain. Il y a du NPK dans l'urine, donc il y a des engrais dans l'urine, il y a plein de solutions pour la valoriser, mais au-delà de l'aspect nutriment, il y a surtout que là ça engendre des problèmes environnementaux assez majeurs. Ça coûte très cher à retraiter, mais très cher, il faudrait reprendre les stats exactes, mais au niveau européen c'est colossal. C'est le marché de l'assainissement de l'eau est plus gros que le marché de l'agriculture. Il faut se rendre compte de l'aberration, quoi. C'est-à-dire qu'on ça coûte plus cher à la collectivité de traiter l'eau que d'alimenter les gens.
Alors ça c'est un point absolument incroyable, et on va y revenir, ça fait partie de mes prochaines questions. Mais justement, revenons-en à toi et à Toupie Organics. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme produit, comme brevet, justement, qui pourrait révéler, refaciliter, disons, cette valorisation de l'urine?
Ouais. Alors, pour comprendre ce qu'on a fait, il faut déjà revenir à la base, qui est, comme je disais, que dans l'urine, il y a des nutriments, et que dans un monde, on va dire, idéal, où il n'y a pas d'enjeux économiques, de rentabilité, etc., juste rien qu'un épandage de l'urine brute, ça suffit à fertiliser un champ. Sauf que aujourd'hui, sauf à rentrer dans des systèmes très subventionnés, etc., c'est beaucoup plus rentable pour un agriculteur d'utiliser l'engrais minéral. Enfin, beaucoup plus. C'est plus rentable, voilà, pour être assez optimiste quand même. C'est plus rentable d'utiliser un engrais minéral que de l'urine brute ou même de l'urine concentrée.
Donc, malgré tous les frais de transport de l'autre bout du monde, tu as évoqué la Russie ou le Maroc, etc., bien sûr, qu'on pisse tous autour d'un champ potentiellement à aller à moins de quelques dizaines de kilomètres.
Oui, tout à fait. Mais là, aujourd'hui, pour donner un exemple, aujourd'hui, un engrais azote-phosphore, ce qu'on appelle le diammonium phosphate, donc c'est vraiment l'engrais quasiment numéro un utilisé en engrais starter dans les champs. Donc c'est ça qui vient notamment du Maroc. Donc c'est un mélange d'azote et de phosphore. Typiquement, c'est du 18-46, 18% d'azote, 46% de phosphore. D'accord. Ça vaut, que je dise pas de bêtises, je crois que ça vaut 600 euros la tonne arrivée chez l'agriculteur.
D'accord.
C'est que dalle, c'est rien. C'est une broutille. Alors que pour avoir les mêmes concentrations de nutriments via l'urine, bon, il faut des dizaines de milliers de litres au minimum. Voilà. Donc forcément, on comprend bien que au niveau de ne serait-ce que pour l'épandage, pour l'agriculteur, c'est vachement plus simple d'avoir un petit granulé qui bouge pas, qui se conserve bien. Hop, on met ça à quelques centaines de kilos hectares et puis ça suffit à fertiliser.
Oui, bien sûr.
Mais ça, c'est lié à des problématiques économiques, hein, uniquement. Hein. C'est pas parce qu'un agriculteur, il pourrait faire autrement, mais il faudrait qu'il ait le choix. Hein, parce que souvent, les agriculteurs sont quand même manquent de choix, justement.
Puis, en plus, c'est l'engrais dont tu parles, là, il est très restrictif, dans le sens où, mis à part l'azote et le deuxième élément que tu as évoqué,
phosphore, ouais.
Il n'y a rien d'autre, quoi.
Non.
Et ça, il n'y a aucune vie là-dedans, quoi.
Ah non, mais il y a effectivement qu'une vie, il n'y a pas ou très peu d'oligo-éléments, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est les taux d'efficience. Donc, quand on apporte là les 46 unités d'azote, en fait, il y en a la moitié qui ne sont pas disponibles pour les plantes.
Ok.
Ça, c'est un fait, c'est pas, je ne sors pas de mon chapeau, et c'est pareil pour l'azote. Hein. En gros, les azotes qu'on utilise d'origine, enfin, qui viennent du procédé à Barbosch, en gros, il y a à peu près 50% qui est perdu. Lors de l'épandage, il y a des volatilisations. Ensuite, il y a souvent trop, donc ça ruisselle, donc ça va soit dans la nappe phréatique, soit dans le cycle de l'eau. Enfin.
Les rivières, etc.
En gros, oui. En gros, le taux d'efficience de ces nutriments est extrêmement bas. C'est pour ça que je disais que c'est très mal utilisé. Alors que c'est des trucs super. Je veux dire, l'humanité pourrait s'en servir beaucoup mieux que ça, dans des conditions très spécifiques, etc. D'être capable de capter de l'azote de l'air via du gaz, ça peut être utile. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça peut pas être utilisé comme ça de façon massive, en oubliant tout le reste qu'il y a à côté. C'est des technos qui sont quand même super et qu'il faudrait utiliser intelligemment. Voilà.
Ouais, c'est encore une fois une question d'équilibre. On peut pas faire que avec ça, quoi.
Ah non, pas du tout. Mais c'est aberrant. Mais c'est du gaspillage. Voilà, c'est ni plus ni moins que du gaspillage. Moi, je le vois vraiment comme ça.
Ouais,
ces ressources sont justement là, encore une fois, limitées. On devrait pas. On devrait pas jeter la moitié à la poubelle, quoi.
Bien sûr.
c'est quand même.
Surtout quand on la ramène de l'autre bout du monde, quoi.
En plus, oui. Bon, après, l'azote est quand même, on en produit beaucoup en Europe et aussi en France, même si le gaz vient plutôt d'ailleurs. Mais donc, on est capable de produire de l'azote. Sur le phosphore, c'est beaucoup moins vrai. Mais voilà.
Alors, après, il y avait un chiffre qui était quand même assez hallucinant, hein, que justement, les greniers d'abondance rappelaient, c'est que la synthèse des engrais azotés emploie 1% de l'énergie naturelle consommée par l'humanité chaque année, et donc principalement sous forme de gaz naturel. Donc,
ouais.
Si on pouvait déjà éviter d'utiliser l'énergie pour ça, enfin, en tout cas une partie, ça serait pas mal, quoi.
Mais je crois que l'ensemble des engrais, ça représente la dépense énergétique pour fabriquer des engrais, c'est 3% de la consommation énergétique globale.
Oh, putain,
c'est quand fou. On prend tout ensemble. Et effectivement, c'est aberrant, quoi. Parce que il y a ces 3% qui sont là pour produire de l'engrais, mais maintenant, j'ai personne, je crois, qui a fait le calcul sur combien on dépense pour traiter nos déchets.
Oui, bien sûr.
Typiquement l'urine. Voilà. Mmh. Combien ça coûte
Et par rapport à... au retraitement de l'eau que tu as commencé à évoquer tout à l'heure en plus.
Ouais.
Alors, justement, on a redévié. Est-ce que tu peux en venir à ce que vous faites précisément chez Toupie?
Ouais, tout à fait. Donc nous, en gros, je reviens quand même sur le fait, encore une fois, que le problème qu'on a identifié, c'était vraiment économique. Donc la question, c'était comment on fait pour donner un tout petit peu plus de valeur à l'urine, pour que ce soit rentable de la recycler, pour enclencher une filière de recyclage. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose.
Bien sûr.
Et donc, en fait, moi, je faisais des produits, des extraits végétaux fermentés avec mon ancienne activité. Et quand j'ai regardé la composition de l'urine, je me suis dit, mais ça ressemble quand même étrangement à un milieu de culture pour des bactéries. Donc, je me suis dit, potentiellement, on pourrait faire pousser des bactéries dessus. Et déjà, ça changerait la donne au niveau de la valeur qui est attachée à l'urine. Mmh. Du coup, j'ai commencé à faire...
Parce que là, entre nous, oui. Si... ton associé dont j'ai oublié le prénom
Pierre, quand il
avait vraiment aucune autre solution que de faire retraiter 50 euros la tonne le mètre cube d'urine et donc même s'il la vendait à des agriculteurs il aurait pris combien 0 euros 5 euros 10 euros la tonne, j'en sais rien.
Ah non alors déjà il y a des problématiques réglementaires, mais même si on oublie totalement les problématiques réglementaires, un agriculteur, comme je disais, aujourd'hui il a déjà pas forcément le matériel pour répandre des gros volumes de liquide. Et surtout ça va lui coûter moins cher d'utiliser des engrais minéraux. Donc sauf on va dire des agriculteurs qui ont une vraie conscience écologique et qui sont prêts à jouer le jeu, aujourd'hui à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de solution de valorisation directe comme ça. Mmh. C'est ça. Enfin, de toute façon, c'est pas pour rien que c'est pas fait. Hein. Voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà. Du coup, donc pour reprendre sur ce qu'on fait nous avec l'urine. Donc, en gros, pour résumer, on s'en sert comme d'un support de croissance pour faire croître des bactéries d'intérêt agronomique ou industriel. Donc, en gros, l'urine, comme je disais, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup de nutriments et de molécules différentes. Mais en fait, c'est un liquide qui est extrêmement équilibré. Et du coup, on peut faire pousser quasiment toutes les bactéries qui sont utilisées aujourd'hui en agriculture ou au niveau industriel sur une base d'urine.
Excellent. Malgré tous les problèmes qu'on entend régulièrement sur le sujet, genre l'urine, bah, il y a des traces de médicaments, il y a des traces de traitements, etc. Il y a éventuellement, des excès d'alcool potentiellement si tu récupères dans un festival. Ça, c'est des choses qui peuvent être facilement gommées.
Oui, alors ça, il y a énormément de technologies qui existent. Alors, il y a déjà les plus connues, c'est le système de filtration. Donc, il y a tout ce qui est système de filtration, filtre à charbon ou même à la gare, où là, ça permet même de valoriser les molécules qui sont extraites. Donc, ça, c'est pas trop une problématique, même s'il y a, ça rajoute un petit coût de traitement et quelques déchets qui sont générés, hein, parce que si on filtre, évidemment, ça crée un déchet. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. En gros, on sait tout enlever. Aujourd'hui, il y a le procédé, par exemple, Vuna, qui est un procédé suisse de concentration des urines. Il filtre tout au charbon. Il y a zéro ou quasiment zéro résidu pharmaceutique derrière. Après, il y a d'autres, il y a d'autres façons de répondre à cette question. Il y a, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des résidus pharmaceutiques? Tout part dans le cycle de l'eau. Hein, c'est pas traité en station d'épuration. Donc
on finit par le reboire de toute façon.
Donc, en gros, est-ce qu'il vaut mieux mettre les urines, ces résidus qui viennent des urines, même si on les traitait pas, est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans un champ, sur un sol qui, lui, est apte à digérer une très grosse partie de ces molécules-là, ou est-ce qu'il vaut mieux le balancer dans l'eau où là, il n'y a aucun, enfin, c'est pas un organe de digestion, un fleuve, alors que un sol, c'est un organe de digestion. Voilà.
Donc, ça, c'est déjà. Toute la vie qui y est,
Exactement. Donc, il vaut mieux, de toute façon, en l'état, le mettre sur un sol. Deuxième niveau de réponse, c'est tout simplement, il faudrait consommer moins de médicaments ou de façon plus intelligente. Parce qu'en fait, le problème devrait pas... on ne devrait pas avoir retraité l'urine si on utilisait de façon un peu plus intelligente les médicaments. Mmh. Il y a un autre niveau de réponse qui est que dans les lisiers animaux qui sont utilisés en champ, il y a plus souvent de résidus pharmaceutiques que dans les urines humaines. Et ça, on ne pose pas la question, c'est pas retraité. Un autre niveau de réponse, c'est qu'au niveau réglementaire, tout le monde s'en fout. On n'a rien à dire à personne. C'est-à-dire là, demain, on peut recycler l'urine comme ça, ou après un procédé de traitement, le réutiliser. Il n'y a aucun cadre réglementaire sur ce sujet, pour l'instant. Ça, je pense que ça va arriver.
Jusqu'au prochain scandale sanitaire qui débouchera là-dessus.
Voilà, franchement, des scandales, il y en a déjà. Il y a des choses qui se passent.
Oui, plus exactement à la prochaine publication sur le sujet.
Ouais, voilà. Et après, le dernier niveau de réponse pour nous, on essaie de trouver une solution pour avoir un avis du grand public sur le sujet. Nous, en gros, on est sur des produits donc qui sont des produits fermentés, où donc déjà il y a des transformations qui s'opèrent, une hygiénisation dans la fabrication du produit. Et après, on est sur des doses d'utilisation de notre produit qui vont de, en gros, 0,5 à 100 litres à l'hectare.
Ah oui.
Donc, quand on sait qu'il y a il y a des résidus pharmaceutiques dans les urines, mais que c'est quand même, on va dire, des concentrations qui sont relativement faibles. Donc, quand on apporte quelques dizaines de litres sur un hectare, est-ce que il y a vraiment un intérêt à mettre tout en place un gros système de filtration avec une génération de déchets, ou est-ce qu'on dit non, tant pis, on met ça comme ça parce que c'est, on va dire, pour résumer, c'est plus low-tech.
C'est quand même assez incroyable de se dire que quelques dizaines de litres suffisent à un hectare, donc pour rappel, 10 000 mètres carrés, c'est quand même en proportion, je trouve que c'est pas risible. Mais...
Pour être un peu plus clair sur ça, je pensais qu'on allait venir plus tard, mais
vas-y.
En gros, on développe une gamme de produits donc qui sont en fait des bactéries qui ont poussé sur l'urine, donc on vend dans leur milieu de culture qui est l'urine, qui ont différents effets en champ. Donc on a par exemple la capacité d'amener des bactéries qui vont directement fixer l'azote dans le champ, d'autres qui sont capables de solubiliser le phosphore qui sont déjà présents dans le sol, des bactéries qui peuvent servir d'insecticides, par exemple il y a un exemple qui est très connu, c'est le Bacillus thuringiensis qui vient parasiter les chenilles, les pyrales du buis par exemple. Il y a des bactéries qui peuvent servir de fongicides, typiquement les lactobacilles. Il y a des effets antifongiques qui sont connus, qui sont dans la littérature depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a plein de typologies de bactéries différentes qui ont des effets dans le champ. Et donc nous, en fait, avec ces bactéries, on va être capable de remplacer une partie des engrais minéraux. D'accord. On peut pas remplacer 100%. 100%, ça pourra se faire. Soit, en fait, nous, dans notre cas, c'est soit notre technologie va permettre de, par exemple, baisser de 50% l'utilisation d'engrais minéraux ou de compléter une nouvelle fertilisation, par exemple, nos produits, plus 50% de d'urine concentrée ou d'urine épandue en brut ou d'autres sources de nutriments. Mmh. Ben, en gros, notre technologie ne permettra pas de remplacer 100% des engrais minéraux. Mmh. Voilà. Par contre, ça permet d'amorcer une filière. Si je prends un exemple très concret, les bactéries fixatrices d'azote, en gros, sur un champ, on met plusieurs centaines de kilos d'azote par hectare et par an. Nous, en mettant, en gros, allez, pour schématiser, un litre de concentré de bactéries qui fixent l'azote dans le champ, on est capable, en moyenne, de fixer une vingtaine de kilos d'azote à l'hectare.
D'accord.
Donc, en gros, avec un litre d'urine, un petit process de transformation qui est très peu énergivore, qui est très fonctionnel, on arrive avec ce litre à capter une trentaine de kilos. Donc ça remplacera pas toute la fertilisation. Par contre, on comprend bien et très 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 simplement, on peut se forcer à comprendre qu'il y a un intérêt à remplacer déjà une partie. Et après pour le reste, il y a d'autres solutions qui existent ou qui vont devoir exister, typiquement les matières fécales d'autres procédés de traitement des urines qui vont venir compléter ça. Mmh. Mais en gros, nous, on fait vraiment des produits qui ont des usages très spécifiques et qui vont permettre de remplacer une partie de la fertilisation.
Ok. Mais c'est déjà, vu les proportions que tu évoques, c'est déjà quand même très très intéressant.
Mais disons que nous, on vise, notre objectif sur la boîte, c'est de recycler 1% de l'urine humaine qui est produite à terme dans le monde. Mais déjà, on va commencer par la France. Déjà, ça représente quand même 300 millions de litres d'urine, ce qui est déjà pas mal. Oui. Et en fait, le gros avantage de notre techno, c'est que dans le contexte économique actuel, c'est tenable. C'est-à-dire, ça crée de la valeur, on crée de l'emploi, il y a de l'argent qui sort. Donc, ça peut être mis en place. Et oui. ça va permettre de démarrer une filière qui, derrière, va pouvoir s'occuper des 99% restants. Mais en fait, il fallait absolument que quelqu'un arrive et dise, bon, mais maintenant, allez, c'est parti, on va faire du fric avec l'urine pour que ça intéresse. On est dans un système capitaliste, donc ça intéresse ceux qui vont faire de l'argent avec ça. Mmh. Voilà. C'est vraiment nous l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'amorcer cette filière, mais réellement. C'est-à-dire, ok, maintenant on installe des toilettes à séparation ou des urinoirs sans eau, mais avec vraiment une valorisation derrière qui est tenable économiquement pour tout le monde, qui a un impact écologique. Et en fait, en faisant ça, l'idée c'est d'amorcer toute une filière qui va aller plus loin.
Mmh. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on en revient à ce que tu disais initialement, c'est que tu fais de l'argent, mais pas que ça. Loin de là, tu ramènes beaucoup de sens finalement.
Ah oui, mais de toute façon, enfin, moi je suis persuadé que vu ce qui nous attend dans les quelques dizaines d'années à venir, déjà si des investisseurs aujourd'hui ont la main sur, parce que typiquement nous on a fait une levée de fonds, on a des investisseurs qui attendent un retour sur investissement, mais on était très clair sur le fait que ce serait pas des TRI comme ils disent, c'est-à-dire des taux de retour sur investissement exceptionnels. L'idée c'est vraiment de se dire, déjà si j'ai une boîte qui rend un vrai service, qui est un peu indispensable in fine et qui génère un peu d'argent tous les ans, ce sera déjà pas mal.
Ouais, ce sera déjà pas mal du tout. La fameuse génération de services écosystémiques qu'on a vu aussi avec Michel Bowens il y a quelques épisodes. Il prend l'exemple par exemple de Terre de Liens. Enfin, moi, je vais pas approfondir là-dessus. Ceux qui veulent écouter l'épisode pourront l'écouter, mais je trouve qu'il y a des très bonnes connexions là-dessus.
Ouais, mais j'avoue, je suis pas à la page. Je connais bien, enfin, je connais Terre de Liens. J'ai des contacts en commun avec Maxime de Rostolin, etc. Mais c'est, moi, je suis tellement depuis un an et demi la focus sur le sujet urine, à essayer d'avancer au plus vite pour qu'on ait un impact, pas dans 10 ans, mais maintenant, que j'ai décroché un peu de tout ce qui se passe autour. C'est malheureux, mais
non, mais je pense que t'as la meilleure des stratégies pour avancer vite, donc t'inquiète pas, c'est pas bien grave.
Non, mais de toute façon, on fait au mieux.
Complètement. Et donc ces différentes applications que vous avez créées, vous en avez même fait un brevet, mais on en revient aussi à la création de l'entreprise. Enfin, en un an et demi, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quel est l'accueil, par exemple, des agriculteurs par rapport à vos produits?
Alors, juste sur ce qu'on a réussi à faire en un an et demi, je prends les deux questions d'affilée. Donc, en un an et demi, on a gagné, je crois qu'on doit être à 12 ou 13 concours d'innovation en France et en Europe. On a levé en fonds privés, c'est-à-dire des fonds d'investisseurs, 1 million 100 000 euros.
Business angel pour le coup?
Non, on a le fonds d'investissement leader sur notre tour de table, c'est le fonds d'investissement Créadev, c'est la famille Mullier.
D'accord, ok. Je vois très bien. Voilà, donc, tout go Auchan, etc.
Comment?
La famille Mullier, c'est tout ce qui est Auchan, etc.
Auchan, Decathlon, etc. Donc, qui font aussi quelque part partie du problème qui est identifié. Là, Fabien en reparle aussi dans sa thèse, mais sur la concentration des centrales d'achat pour les productions agricoles. En gros, il y a toute l'agriculture et 90 ou 95% part dans quelques centrales d'achat, dont font partie la centrale d'achat Auchan. Mais, moi je vois pas côté blanc ou côté noir. Moi je vois que en gros ces gens-là, ben ils ont accepté de mettre de l'argent sur un projet jeune avec du potentiel, etc. Parce qu'il y a un potentiel économique, mais aussi parce qu'ils s'interrogent sur le futur. Et en gros, je me dis que leur argent est bien mieux utilisé chez moi qu'à construire un nouveau centre commercial.
Ouais, tout à fait. Et puis ces groupes-là aussi se questionnent beaucoup et sont même en train de créer des champs à côté de certains magasins, etc. Enfin, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience aussi.
Oui, et puis ils ont aussi un vrai savoir-faire, on va dire business, du réseau, etc. C'est des gens qui ont énormément de qualité. Moi, je vois la personne qui est au bord stratégique de la société, qui fait partie du fonds et qui fait partie de la famille Mullier. Ben, c'est un mec qui est exceptionnel, qui nous aide énormément, qui s'investit beaucoup dans le projet, et pas que parce que c'est un investissement financier, parce qu'ils veulent, eux, c'est amener une boîte d'une étape 1 à quelque chose qui a un vrai impact, qui est capable de générer de l'argent, qui est capable d'être, j'aime pas trop ce mot, mais d'être exploité intelligemment. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Et en parallèle, il n'y avait pas que eux, évidemment. En gros, on a fait un truc assez équilibré, c'est-à-dire on a le fonds d'investissement de la famille Mullier, on a le fonds d'investissement Make Sense, donc là, qui est vraiment les critères, c'est vraiment l'impact. Mm-hmm. Donc d'ailleurs, c'est le seul fonds qu'on a rencontré où il n'y a que des femmes. Ça, c'est assez rigolo, et je trouve ça génial, parce que c'est souvent que des hommes, d'ailleurs, mais bon.
Vous avez réussi à équilibrer un peu plus là-dessus.
Ouais, mais après on a aussi un groupe qui est lié à l'agriculture, qui fait aujourd'hui de l'import d'engrais minéraux et de l'export de céréales. Donc vraiment, ils ont des silos stratégiques sur les ports qui peuvent stocker des centaines de milliers de litres d'engrais, etc. Parce qu'eux aussi savent bien que dans 10, peut-être 20, 30 ans, je sais pas, peut-être dans 5 ans même, c'est terminé ce modèle. Donc ils savent que le futur, c'est pas là-dedans. C'est dans le recyclage des nutriments, c'est dans l'économie circulaire. Mais par contre, c'est des gens qui sont capables d'apporter une véritable expertise et d'ouvrir les marchés.
Ouais, si je prends un exemple, des réseaux de dingue, puisqu'ils ont déjà accès à tous les agriculteurs, j'imagine.
Tout à fait.
De France.
Mais même pour reparler d'Auchan, c'est ça qui est assez rigolo quand même, c'est que effectivement, moi je pense que c'est un problème le fait de concentrer, on va dire le circuit de l'alimentation sur quelques centrales d'achat, mais là dans notre cas, à partir du moment où on a un produit qui est efficace, qui coûte moins cher à l'agriculteur, qui est propre, qui a un impact carbone meilleur que les engrais minéraux, ben c'est aussi des gens qui éditent les cahiers des charges pour les agriculteurs qui envoient de l'alimentation dans Auchan. C'est-à-dire si vous avez une marque de distributeur Auchan qui fait des gâteaux à base de blé, il faut bien produire ce blé. Et eux, dans leur cahier des charges, ils peuvent dire, ben nous, Auchan, on vous demande d'utiliser tel produit.
Mmh, bien sûr.
Et donc nous, potentiellement, c'est, je sais pas, c'est 300 000 hectares d'un coup qu'on peut fertiliser avec de l'urine. Donc là, l'impact, il est instantané.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à votre board, vous avez déjà presque toutes les étapes de la chaîne de valeur autour de votre produit qui est représentée, quoi.
Ouais, et surtout, on va dire, parce que là, bon, en gros, il y a une quinzaine d'investisseurs, hein, qui sont rentrés sur le tour de table. Il y a aussi quelques business angels qui nous suivent depuis un moment. On a des très gros experts seniors, sur des domaines stratégiques pour notre société qui nous apportent des conseils sur leur domaine d'expertise. Donc, ça va d'un vrai directeur financier à l'ancien directeur R&D du groupe Soufflé ou de Novozymes, qui est le numéro un mondial des procédés enzymatiques et fermentaire au niveau industriel. Enfin, on a effectivement un board et des conseillers stratégiques de haut vol, et ce qui nous permet d'avancer très vite et de d'essayer d'avoir un impact en fait rapide. C'est ça. J'en reste toujours là. C'est que s'il n'y a pas photo, si on veut changer les choses dans un système comme le nôtre, il faut et que toutes les sphères, c'est-à-dire le privé, le public, etc., soit dans le jeu et avancent dans la même direction.
Oui, qu'il y ait une vraie forme de coopération, qu'il y en ait pour tout le monde et que ça avance
tout
bien.
Tout à fait. En gros, nous, on est parti sur ce principe-là dès le départ, c'est un partage de la valeur, un partage aussi des décisions. Notre prochain enjeu, ça va être sur le prochain tour de table, de créer des pôles d'investisseurs qui soient à la fois issus de l'industrie, parce qu'ils vont pouvoir amener la technologie très vite sur le marché, d'autres où c'est purement du financier, d'autres où c'est purement de l'impact, et pour avoir toujours une espèce de consensus de trouver une solution qui va à tout le monde. C'est-à-dire comment on fait pour prendre en compte l'intérêt public, mais comment on fait pour s'assurer que les investisseurs soient contents parce qu'il y a de l'argent qui est généré, etc. Et donc d'avoir un truc qui, dans l'ensemble, avance bien et est positif pour tout le monde.
Voilà. Bien sûr.
C'est jamais parfait, mais...
Et justement, on a commencé à les évoquer. Tu nous as pas donné le retour d'expérience des agriculteurs avec tes produits Toupi Organics.
Ben alors, pour l'instant, on peut pas vendre le produit. Je sais pas si ça c'était très clair, mais
Je savais pas. Je voyais des bidons partout. Alors je me disais que c'était.
Ouais, non, mais on a des bidons. On fait énormément d'essais agricoles, donc on a pas mal de retours. Mais c'est surtout des essais via des centres techniques, parce qu'en fait, pour le. Oups, pardon. J'ai oublié de prendre mon téléphone. Ça, c'était évident. c'est normal. Oui, en gros, pour reprendre un petit peu, parce que là ça demandait 2-3 explications, mais pour mettre sur le marché un produit fertilisant dans des bonnes conditions, il faut avoir une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Et donc l'autorisation de mise sur le marché, c'est quand même un process très complexe, mais en gros c'est comme pour un médicament, il faut pouvoir démontrer l'innocuité du produit pour l'homme et l'environnement, la reproductibilité du procédé, c'est-à-dire avoir toujours le même produit dans le bidon. Et avoir prouvé l'efficacité agronomique. Ça, c'est les 3 points, on va dire, clés. Après, il y en a d'autres, parce qu'on est sur des sujets bactériens, donc il y a aussi la persistance des micro-organismes dans le sol, énormément d'études à faire, mais les 3 principaux, c'est les 3 principales données à fournir, c'est ça. Et donc, dans ce volet efficacité agronomique, évidemment, c'est pas des essais qu'on fait au jardin ou avec 3 potes agriculteurs qui disent « Ah ouais, c'est super, ça marche bien ». C'est évidemment, ça suffit pas. Il faut faire des essais avec des centres techniques qui sont certifiés bonne pratique expérimentale, accrédités COFRAC. Donc ces centres techniques, prestataires d'essais agro. J'en oublie sûrement un, mais en gros, il faut des vrais essais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'essais justement avec ces fameux centres, et on fait aussi des essais en direct auprès d'agriculteurs pour avoir des retours d'expérience terrain, et on fait aussi des essais nous en interne. On a une chambre conditions contrôlées et une serre. On fait des essais préliminaires orientatifs pour savoir, pour pas avoir à payer des essais techniques tout le temps. En fait, on fait les essais, on voit ce qui marche, et après ça, on l'envoie en confirmation sur des vrais essais techniques accrédités. Mais en gros, les retours, Ben, ils sont excellents. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données en un an. On n'a qu'une campagne, en fait. Donc, ça va prendre un peu de temps.
Oui, parce qu'après, il faut tous les retours d'expérience sur le champ, etc. Et tu ne l'as pas dans la minute, quoi.
Tout à fait. Mais en gros, sur tous les essais qu'on a fait pour l'instant, on en a une quinzaine. Donc, certains où on n'a que des résultats partiels pour l'instant, et d'autres où c'est des essais complets. En gros, les effets qu'on voit sur notre premier produit. Parce que je parlais de faire pousser des bactéries dessus. Là, pour l'instant, c'est un premier produit avec deux bactéries qui ont un effet spécifique. Donc, on est toujours sur un premier produit pour l'instant. Donc, les effets de ce premier produit, c'est en gros, ben, les bactéries sont capables de solubiliser le phosphore dans le sol, donc de rendre disponible du phosphore qui ne l'est pas d'habitude. On a vu des très nets effets sur la réduction du stress hydrique des végétaux. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'était un essai sur vigne en complantation par la chambre d'agriculture. En gros, une vigne, lorsqu'on plante un cep de vigne, ben il faut, enfin les vignerons arrosent sur la première année, même sur les deux premières années, le temps qu'il y ait le système racinaire qui se mette en place. Bien sûr. Et ce qu'on a vu, et c'était très clair sur les essais, c'est qu'avec 50% d'irrigation en moins, on avait quand même une meilleure biomasse en appliquant le produit.
Incroyable.
Oui, on sait toujours pas les modes d'action qui font ça. Enfin, on a des idées, parce qu'il y a de la biblio. En gros, on sait que c'est des bactéries qui ont cet effet-là. Mais en plus, avec complété en fait par le milieu très équilibré qu'est l'urine, avec pas mal d'oligo-éléments, pas mal de substances nutritives diverses et variées, on arrive à des effets qui sont assez impressionnants. D'autres effets qu'on a là, donc là où c'est des résultats partiels, donc j'ai pas encore les résultats rendement, c'est dommage. Mais en gros, sur à la fois grande culture ou pépinière horticulture, souvent ce qu'on utilise, je parlais des engrais starter tout à l'heure, azote, phosphore. Mais en fait, par exemple, sur du maïs, quasiment toute l'agriculture conventionnelle utilise ces fameux engrais starter, c'est-à-dire à la plantation du maïs, ils mettent 100 à 130 kilos d'engrais composés d'azote et phosphore qui est fait pour améliorer le démarrage des plantes.
Quand tu donnes des quantités, c'est toujours à l'hectare?
Ouais, c'est ça. 130 kilos, c'est à l'hectare. Mmh. Et bien, nous, ce qu'on a vu là, et là, on a les résultats, on va dire, c'est à 3 mois, si je dis pas de bêtises, après 3 mois de culture, il n'y a aucune différence entre un maïs fertilisé avec ce fameux DAP, donc c'est 130 kilos à l'hectare, donc c'était 130 qu'on testait, versus 20 litres de notre produit.
Incroyable.
Il n'y a pas de différence. Donc après, il y a quand même des, comment dirais-je, sur le long terme, il faudra voir, parce que évidemment, le phosphore, il tombe pas du ciel. Donc, à un moment, quand le sol va avoir épuisé ses stocks de phosphore, il faudra bien trouver des solutions pour en remettre. Mais en gros, on fait en sorte qu'il soit bien mieux utilisé, qu'il y ait moins de pertes. Et en fait, ça permet aussi d'amorcer, le retour du phosphore, par des voies d'économie circulaire, parce que typiquement, nous, pour faire pousser nos bactéries, on n'a pas besoin de phosphore dans le liquide, donc on peut tout à fait, avant de faire pousser nos bactéries, extraire le phosphore de l'urine et en fait l'utiliser intelligemment pour en remettre dans les champs.
Excellent.
Après, voilà, il y a aussi de la récupération de phosphore directement via les stations d'épuration. Enfin, disons que ça permet de sérieusement remettre en question les méthodes traditionnelles, les méthodes actuelles de fertilisation. Et ça, on le voit, encore une fois, c'est pas des essais qui viennent de chez nous, c'est des essais agronomiques certifiés avec à chaque fois c'est du triplica, plusieurs modalités, témoins fertilisés, c'est quand même du costaud. Et on voit des effets qui sont juste. Mais même nous, on reçoit les essais. Des fois, on se dit, mais c'est, comment c'est
incroyable,
possible
quoi.
Ouais, voilà, c'est assez incroyable. Mais du coup, c'est bien parce que commercialement, ça donne des armes, ça permet de d'attaquer les marchés et, comme je disais, d'amorcer cette filière-là.
Et alors, justement, as-tu une idée du nombre, du délai encore, du nombre d'études, etc., que vous devez encore passer à la commercialisation?
Alors, on a tout ce qu'il faut en termes d'études, même en termes d'essais agro, on a assez, largement assez de données pour déposer une AMM. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, fin septembre, on aura déposé notre dossier d'autorisation mis sur le marché, donc qui est délivré par l'ANSES. Sauf que, bon, on est en France, hein, et ben, c'est simple. L'ANSES, en fait, a un délai de réponse réglementaire.
Pour rappel, c'est l'Agence nationale de toutes les problématiques sanitaires, je suppose.
Alors, ils sont plutôt spécialisés sur les matières fertilisantes et les produits phytopharmaceutiques, je pourrais même plus dire. C'est une loi, l'Agence nationale, sûrement de sécurité, je sais plus quoi. Enfin, je sais que l'ANSM, là, c'est le médicament, et l'ANSES est plutôt... on va dire matière fertilisante, support de culture, produits phytopharmaceutiques, et je crois qu'ils touchent quand même un peu à l'eau aussi. D'accord. Mais en gros, c'est une agence nationale indépendante qui s'occupe de...
Voilà. J'ai l'abréviation, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail.
Voilà, bon, ben, très bien. Ça, il faudrait demander à mon associé plutôt, il a fait sa thèse là-bas, moi, les acronymes, c'est pas mon fort. En gros, normalement, l'ANSES doit répondre à un dossier d'autorisation de mise sur le marché en 8 mois.
8 Donc mois
déjà, ben... Non, mais attends, ça, c'est le délai réglementaire. Le délai moyen constaté, c'est 2 ans.
Oh putain, c'est pas incroyable.
Voilà. C'est un truc, je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas s'ils sont sous-effectifs ou si Enfin, c'est très franchement, pour donner un exemple, il faut, avant même de demander l'autorisation de mise sur le marché, il faut demander un permis d'expérimentation pour pouvoir essayer les produits. Et pour donner une idée, ben, il faut transmettre tout le dossier, un dossier technique assez, assez sympa, par CD. Voilà, il faut leur envoyer un CD, sinon c'est pas recevable.
Un CD-ROM, quoi.
Oui, un CD-ROM, voilà. Donc,
en 2020.
Ouais, voilà, un CD-ROM en 2020. On a eu, c'est simple, il faut payer aussi une taxe, évidemment, pour qu'ils étudient le dossier. Mm-hmm. Je crois que pour le dossier d'expérimentation, c'était 1000 ou 2000 euros. Nous, au bout de 3 mois après qu'on leur a envoyé le paiement et le dossier, on a reçu un truc. Désolé, on n'a pas étudié votre dossier parce qu'on n'a pas eu le paiement. Sauf qu'en fait, ils avaient bien eu le paiement, c'est juste que c'était un autre service qu'ils avaient reçu et qu'ils ne communiquent pas. Et donc, le dossier a déjà pris 3 mois dans les dents.
Ah, oui,
voilà. Et donc, c'est que ça. Et il y a des... En gros, ça peut être extrêmement long. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Alors, il faut aussi mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est que on a quand même... l'ANSES, ils sont longs, ils ont plein de défauts. Mais en attendant, le boulot est vraiment fait. C'est-à-dire, quand on a une autorisation de mise sur le marché en France délivrée par l'ANSES, on sait que le produit, normalement, il est bon.
OK.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a... Il y a un gros problème sur la typologie de produits qu'on met sur le marché, c'est que beaucoup de nos concurrents, pour pas avoir à donner de dossier à l'ANSES parce qu'ils savent que le produit il est plus ou moins foireux ou que ça va être un peu long ou pour X raisons.
Il n'est pas bien stabilisé, quoi.
Pas bien stabilisé ou qu'il n'est pas efficace, hein, tout simplement. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui réfléchissent uniquement sur il faut que je vende un produit, hein, le reste, on s'en fout. Mais en gros, il passe par un pays étranger. Typiquement, sur les produits bactériens, le plus simple, c'est la République tchèque. Donc là, on va en République tchèque, on dépose un dossier de quelques lignes avec quelques datas. Au bout de, je crois, 30 jours ou 2-3 mois, on a une autorisation de mise sur le marché. Et du coup, la réglementation européenne interdit à la France, vu que le produit est mis sur le marché dans un autre pays européen, de refuser la mise sur le marché en France. Donc là, l'ANSES a l'obligation de délivrer une AMM par reconnaissance mutuelle.
D'accord.
Donc en fait, la plupart de nos concurrents disent « Ouais, on a une AMM en France », mais non, ils ont une AMM en Autriche, en République tchèque, où ils veulent, et puis après, ils obligent la France à autoriser le produit sur le marché. Donc c'est.
Mais est-ce que je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas une stratégie à adopter pour vous aussi et de même en même temps de lancer l'AMM avec l'ANSES?
Si, ben c'est ce qu'on fait là. On va passer par la Belgique parce qu'on est en train d'ouvrir une filiale en Belgique, donc on va déposer une AMM en parallèle en Belgique. Mais on s'était refusé à le faire jusqu'à présent parce que c'est quand même. Pour nous, c'est beaucoup les margoulins qui font ça, quoi. C'est-à-dire, ouais, en gros, t'as un produit plus ou moins merdique, tu veux le vendre quand même, tu fais comme ça. Et ça nous embêtait de se mélanger à cette façon de faire, parce que clairement, enfin, pour moi, c'est de la triche. C'est une réglementation européenne à la con, voilà, pour le dire clairement, qui n'a aucun sens. Donc, on voulait pas le faire, mais là, on le fait en parallèle pour sécuriser, parce qu'on peut se retrouver sinon avec dans 3 ans avec l'ANSES qui nous pose toujours des questions et qui nous dit pour l'instant vous n'avez pas la même.
Voilà. Bien sûr.
Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a d'autres voies réglementaires qui sont en gros, c'est soit on a une autorisation de mise sur le marché, soit on passe par une norme qui est déjà établie. Donc, par exemple, un engrais minéral, si on veut vendre un engrais à base de phosphore, il faut simplement que le produit ait 3% de phosphore. Voilà. Et là, ça passe sur une norme, il n'y a pas de dossier à faire ou quoi. Donc, nous, ce qu'on va certainement faire à l'échelle extrêmement locale, pour faire un essai en fait de commercialisation auprès des agriculteurs locaux, on va dire à moins de 40 km de chez nous, c'est couper notre produit avec un engrais minéral pour atteindre ce taux de 3%. Et puis on va le vendre en norme, on va, ben, comme engrais. Voilà, comme engrais, ben, t'es méchant. Donc ça, c'est une solution qui est assez moyenne, mais qui, en gros, là aujourd'hui, en fait, on fait plein d'optimisations de sur le procédé de production, etc. Donc on a des milliers de litres de produits. Et en fait, on va se retrouver, parce qu'il y a une conservation qui n'est pas du tout éternelle sur cette typologie de produit, vu que c'est des bactéries vivantes. Bien donc, sûr. C'est soit ben, on prend tout et on jette tout au caniveau, ou soit on trouve une solution pour pouvoir l'amener sur l'agriculture par une voie réglementaire X ou Y.
Ouais.
Donc, nous, ça nous... Enfin, pour moi, c'est inconcevable d'aller jeter tout ce produit-là alors que je sais qu'il marche.
On est bien d'accord. Ouais.
C'est... Donc, voilà, Donc là, en fait, à partir de la fin d'année, là, on va commencer une opération de commercialisation, vraiment de démonstration, qui est qu'on est capable, à 40 km de notre unité, de collecter, transformer et revendre les produits.
Ouais.
Parce que nous, l'idée, c'est de déployer des unités de production sur le territoire et pas de centraliser des volumes sur une grosse unité. Et
c'est une des questions que j'allais te poser par la suite.
Eh bien voilà, j'anticipe.
Alors attends, parce que tout ce que tu dis, c'est assez extraordinaire, même si j'entends bien que l'administratif reste là aussi un sujet compliqué. Alors, on a fait un bref état des lieux de l'ensemble des impacts positifs, mais je pense que pour qu'on ait vraiment cette vision systémique du sujet, hein, tu as évoqué ce que vous permettez quand même en partie, hein, même si j'entends bien que déjà dans un premier temps, tu veux t'attaquer au 1% des 300 millions de litres d'urine française.
Non, 300 millions, c'est 1%. 300 millions de litres. C'est 35 milliards de litres en France, enfin 30-35 milliards.
Ah oui, et en Europe, c'est 200 milliards de litres d'urine.
Ouais.
Ouais, ouais. On est quand même sur des chiffres complètement déliants. Donc les 300 millions, on est d'accord, oui, c'est 1%, c'est ce que ça correspond.
C'est 1% de l'urine produite en France, par an.
Ce qui est quand même déjà énorme. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte ce que ça pourrait représenter, 300 millions de litres en termes de lacs, ou je ne sais pas, mais bref. Qu'est-ce que j'allais ajouter à ça? Donc, diminution de l'extraction minière, baisse de la dépendance aux énergies fossiles pour acheminer tout ça, régénération des sols potentiellement, puisque ces bactéries, comme tu me dis, elles sont vivantes, donc meilleure fertilité, meilleure agriculture. On diminue aussi l'énergie pour traiter l'eau, ça tu l'as évoqué aussi. Mm-hmm. Diminution aussi de la pollution des cours d'eau avec tous les effets associés. Bref, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que tu en vois d'autres?
Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.
Vas-y. Ouais.
Alors, déjà, il y a des... Enfin, typiquement, je ne sais pas si... Enfin, il y a un gros problème actuellement qui va être un problème du futur, c'est l'antibiorésistance.
Ouais.
C'est lié en fait aux résidus pharmaceutiques dans l'eau, mais en gros, le fait qu'on rejette nos résidus pharmaceutiques dans le cycle de l'eau, c'est ça qui entraîne la majorité de l'antibiorésistance.
Donc tout ce qui est résistance aux antibiotiques.
Exactement. Là, on a un partenariat scientifique avec une cellule de transfert Aquitaine qui s'appelle Aquitaine Microbiologie, qui est spécialisée en microbiologie, comme son nom l'indique. Et là, son boulot, elle a monté un gros projet, c'est étudier l'antibiorésistance sur tout le littoral aquitain. Donc, elle va gratter des fonds marins, faire des prélèvements d'eau, etc., pour faire un inventaire exhaustif des bactéries qu'on y trouve. Et pouvoir avoir des données sur l'antibiorésistance. Et c'est un truc de fou. Il y a de l'antibiorésistance généralisée à peu près partout. Et ça, en fait, c'est dû au rejet, notamment via les urines, des antibiotiques.
Voilà. Incroyable.
Et donc, en fait, si on arrive à enlever l'urine en amont, à la traiter de façon séparative et à faire en sorte qu'elle sorte du cycle de l'eau, ben, on diminue drastiquement l'antibiorésistance.
Ouais,
il y a d'autres choses qui sont assez impressionnantes. Il y a un médicament, alors j'ai plus le nom du médicament, mais en gros qui utilise, en fait c'est un médicament qui sert à éviter la coagulation quand on met un cathéter à des personnes, ou qui peut servir aussi par exemple à déboucher des artères. Ouais. Et ces médicaments sont produits à base d'une molécule qui s'appelle l'urokinase. L'urokinase, c'est produit par le rein, c'est l'urine des hommes qui on trouve de l'urokinase dans l'urine des hommes.
D'accord.
On peut l'extraire de l'urine. C'est un marché mondial à 2 milliards d'euros qui est 100% maîtrisé par la Chine. En Europe, on est dépendant à 100% de l'arrivée du roquina chinoise, alors que avec quelques centaines de millilitres d'urine, on produit assez du roquina pour toute l'Europe.
C'est incroyable, putain, c'est voilà. Dingue. Ok.
Oui, mais c'est, on s'est retrouvé avec un très gros groupe qui pèse 30 milliards d'euros chinois qui est venu nous voir l'aréole dans notre petit bled à côté de Langon pour voir comment ils pouvaient nous racheter ou comment ils pouvaient utiliser notre techno parce que c'est le premier fournisseur mondial du roquinase. Et qu'en gros, ils se sont dit, oulala, eux, ils vont nous faire du mal, quoi.
Incroyable.
Donc, c'est un sujet de valorisation. Mais pareil, les résidus pharmaceutiques, il y a des solutions pour, déjà, les retirer de l'urine, mais en plus pour les revaloriser. Il y a des molécules quand même qui valent cher à produire. Même si on n'en retrouve qu'une petite partie dans les urines, tout ça, c'est des choses qui sont revalorisables aussi.
Oui, tout à fait.
Ça passerait d'être un gros problème dans le cycle de l'eau à être potentiellement un truc qu'on n'a plus à fabriquer ou peu.
C'est fou. C'est complètement fou. Donc, attends, l'antibiorésistance, cette molécule autour des anticoagulants, qu'est-ce que tu vois d'autre? En plus des impacts économiques, évidemment, tu recrées des emplois, tu peux même recréer une industrie, finalement, comme on t'entend.
Et après, il y a tous les sujets d'artificialisation des sols. Il y a le fait que l'urine, quand elle est rejetée comme ça, sans faire trop attention, il y a tout de suite. L'urée qui est présente dans l'urine se transforme en ammoniac. Tout ça, c'est du gaz. Alors, je sais plus si c'est du gaz à effet de serre ou du gaz polluant. Je sais plus quel est son effet exactement, mais je sais que c'est pas bon au niveau environnemental. Ouais. En gros, il y a tellement de sujets comme ça qui sont liés à notre façon de voir notre système, justement, d'alimentation, production d'engrais, excrétion. Enfin, ça paraît totalement logique de faire autrement, enfin même prioritaire. Ça me paraît assez évident, quoi.
Excellent. Parfait. Et je pense que je pourrais discuter avec toi pendant 2 heures, mais on va finir par arrêter. Est-ce que éventuellement, tu peux nous en dire plus sur cette idée de décentraliser finalement la production, parce qu'effectivement c'est peut-être pas très intéressant de ramener toute l'urine vers chez vous du côté de Castelnaudary.
Alors non, nous on est à l'Aréole, c'est juste en dessous de Bordeaux. Castelnaudary, c'est là où il y a mon ancienne boîte.
Ah voilà, c'est pour ça, excuse-moi, attends, pour moi j'ai confondu, j'ai regardé tout ça et puis j'ai accroché que ce nom-là. Et donc on va peut-être pas ramener toute l'urine chez vous, donc est-ce que t'as une idée de comment tu vas pouvoir décentraliser cette transformation?
Tout à fait. Bon, en gros, j'ai essayé de faire une réponse globale, mais en sachant qu'évidemment chaque situation est différente en fonction du bassin de population, etc. Enfin, ça peut pas être homogène. Ça, c'est toujours peu du sur-mesure. Mais en gros, l'idée, c'est que la seule problématique, et qui encore, par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est pas très grave, mais la problématique autour de l'urine, c'est le transport. Donc, c'est-à-dire que plus on transporte, plus il y a des effets négatifs.
Oui,
donc, en gros, l'idée.
Moins c'est rentable.
Moins c'est rentable, et puis même au niveau écologique, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas aller chercher l'urine à Paris, la ramener à Bordeaux et la revendre en Picardie. À un moment, il faut se réveiller. En gros, l'idée qu'on a, c'est pour traiter ce 1% d'urine en France, donc c'est 300 millions de litres, c'est d'ouvrir 300 unités qui traitent 1 million de litres. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et 1 million de litres, c'est pas un chiffre qu'on a pris au hasard, c'est qu'en fait, si on met beaucoup d'urine au même endroit, typiquement, je sais pas, on veut faire une unité qui traite 100 millions de litres, ce serait faisable, mais déjà, on passe en norme ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'imaginons, t'as une cuve de 1 ou 2 ou 3 millions de litres qui rompt, ça pose des problèmes environnementaux assez sympas. Un peu comme un méthaniseur en pierre, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir des unités de taille raisonnable, locales, et donc qui sont capables, sur un même espace, c'est-à-dire en gros, c'est une quarantaine de kilomètres qu'on imagine, de collecter à l'échelle locale, transformer sur place et redistribuer le produit à l'échelle locale. Donc là, on a potentiellement le meilleur modèle parce que ça permet de sortir des produits vraiment pas chers pour l'agriculture, moins chers que des engrais minéraux, et en limitant l'impact environnemental au minimum. Mais il faut quand même se rendre compte que depuis tout à l'heure, je parlais des engrais starter, donc ce fameux DAP, d'ammonium phosphate.
On peut associer au maïs, ouais.
Il y a une thèse, la thèse de Maclouf, qui est une thèse qui vient d'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de production de DAP aussi en Algérie. Enfin non, pardon, c'est sur le superphosphate. Donc c'est du phosphate pur. Mmh. Donc une tonne de phosphate, c'est 1900 tonnes de CO2. Voilà, il a fait sa thèse, c'est une ACV sur chaque produit fertilisant produit en Algérie. Donc pour produire une tonne de phosphate, c'est 1900 tonnes de CO2. Donc le delta, même si on transportait l'urine énormément sur des centaines de kilomètres, on n'arriverait jamais à des impacts carbone aussi élevés, quoi.
Mais là, si je t'entends bien, ça fait sur la France métropolitaine, ça fait 4-5 unités par département finalement.
Alors, ben c'est justement là que c'est pas si simple, parce que par exemple à Paris, il y a beaucoup plus de population, donc faudra réfléchir un peu différemment. Mais et puis, enfin voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas homogène. Mais en gros, oui, si on fait le calcul comme ça, ça va. Ouais.
Excellent, excellent, excellent. Et est-ce que éventuellement, il y a des choses que le grand public, ou que nos quelques éditeurs, quelques centaines de milliers d'auditeurs peuvent faire pour aider Toupie Organics, parce que bon, on n'est pas tous des clients potentiels, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ?
Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ? Alors, si quelqu'un...
À part appeler l'ANSES éventuellement, si quelqu'un a des contacts là-bas.
Non, mais ça, en plus, c'est une agence indépendante, ils n'aiment pas trop qu'on leur mette la pression, mais au contraire.
D'accord.
Non, par contre, il y a un vrai sujet qu'on n'a pas eu le temps de traiter jusqu'à présent, mais qui sera, je pense, un facteur clé. J'en ai discuté rapidement, justement, avec Fabien Esculier, là, on va dire le roi du pipi. C'est qu'en gros, aujourd'hui, le coût de traitement en station d'épuration de l'urine est élevé. J'ai pas de données exactes à ce sujet parce que j'en ai pas trouvé. Mais en gros, il faudrait qu'à un moment, on arrive à calculer de façon très précise combien ça coûte de retraiter l'urine en station. Parce que les stations, en fait, leur modèle économique, c'est être payé par les collectivités pour retraiter l'eau, pour retraiter le déchet, on va dire. Et bien, en fait, pour avoir un comparatif entre ça et un traitement de façon séparée avec notre techno, et du coup pouvoir avoir une espèce de subvention équivalente, c'est-à-dire être soit délégataire service public ou enfin trouver une solution pour qu'en gros les agences de l'eau par exemple disent bon ben si on retraite un litre d'urine, ben il y a tant pour celui qui a collecté ou pour celui qui a traité. Et ça en fait c'est déjà normalement ça devrait coûter moins cher aux collectivités, voire beaucoup moins cher, et ça permettrait d'accélérer drastiquement la mise en place de la filière. Et nous on a beaucoup de mal à avoir des contacts avec les agences de l'eau. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant en plus leur ministère de tutelle c'est le ministère de la transition écologique, on est labellisé par ce ministère là mais c'est nous de façon générale on a un peu de mal à parler avec le secteur public parce qu'on trouve ils ont tous des grilles de lecture particulières, il faut se mettre dans leur peau, enfin c'est très complexe. Et du coup oui, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu le mode de fonctionnement de prise de décision dans les agences de l'eau par exemple, ou même sur de façon plus large sur la délégation de services publics eau, ça nous intéresserait d'être contacté là-dessus parce qu'on s'y est pas vraiment attaqué, mais quand même on sent qu'on va ramer, quoi.
Ok, je vois bien. Bon, au moins l'appel est lancé, quoi. Et Michael, un grand merci pour cet entretien. Est-ce que t'as des choses à ajouter?
Non. Si ce n'est, pour un truc un peu plus généraliste en dehors de Toupie, pour ceux qui écoutent. Je pense qu'il y a une clé pour qu'on arrive à faire une transition plus rapide et dans des bonnes conditions, c'est que quand les gens voient un problème, qu'ils ne s'arrêtent pas au constat, mais qu'ils se disent « comment je peux faire pour faire mieux ?»
Ouais, voyons la solution derrière.
Voilà, je pense que si on faisait tout ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes.
Ouais,
et c'est à chaque fois que je parle... dès qu'on a une conversation, je sais pas, avec des amis, des trucs, des gens qu'on rencontre, c'est oh là là, mais ça, t'imagines, regarde ce problème-là, etc. Oui, ok, donc tu fais quoi? Et là, la plupart du temps, c'est j'ai le match de foot qui commence, je vais pas avoir le temps, quoi. Donc, il y a vraiment un vrai sujet de, alors je sais pas si c'est d'éducation ou de communication ou de prise de risque, ou je sais pas, mais très souvent, on fait des constats et puis on s'arrête au constat, quoi. Mais moi, ça me sidère. Ça me sidère totalement.
Ça, c'est plus notre domaine, mais effectivement, c'est une façon de penser qui est très analytique, qui dit, bon, ben voilà, on voit le problème comme ça, comme une chose, alors qu'en fait, si on apporte une vision plus systémique, ben, on voit toutes les conséquences, les incidences du problème, et que finalement, ben, on peut les retourner en opportunité de résoudre le problème. C'est exactement ce qu'on fait au quotidien, donc je trouve que tu es une parfaite illustration de ce qu'il faut faire, donc c'est génial. En tout cas, un grand merci pour cet entretien. Plein de bonnes choses pour Toupie Organics et puis bon courage aussi dans tous les aspects administratifs, mais
oui, ça
étant donné étant donné ta volonté, je pense que ce sera pas grand chose.
Non, on va y arriver, on n'est juste pas maître de du délai. Ça, on va y arriver. Mais du coup, ben merci pour l'invitation, merci à tous ceux qui ont écouté, et puis et à la prochaine.
Avec plaisir, ouais, ça marche. Ciao ciao, et puis à bientôt.
À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.